merci de partager avec nous.
C'était un devoir. Hier, j'ai vu le film de Siegler, j'ai trouvé super intéressant.
Lequel?
Un documentaire qu'ils ont fait sur Jean Siegler.
Oui.
C'était intéressant parce qu'il parle comment il rencontre Che Guevara, ici à Genève. Et il dit, je vais aller me battre dans la montagne jusqu'à la mort. Et Jean Siegler, il dit... Che Guevara, le dit, non, c'est mieux que tu restes où tu es, c'est là que tu vas faire un meilleur travail.
Dans le cerveau du monstre. Exactement.
Et les zapatistes nous ont dit exactement la même chose.
Ouais,
ne restez pas ici, allez chez vous pour faire ce que vous devez faire là-bas.
Bon, c'est
Pas mal.
J'ai une question. Du coup, dans la société, il n'y a pas d'argent?
Non. Bon, je pense que oui, on a payé, par exemple, on payait pour le café, on payait pour ça. Ils utilisaient l'argent pour aller acheter dans des autres lieux. Mais entre eux, il y a beaucoup de
troquets.
De troquets. Mm-hmm. Oui. Je pense que nous, on a créé toute une histoire. Nous, tous qui sont venus dehors avec l'argent. Parce que si d'un jour à l'autre, ils avaient prévu 5 sacs de maïs, enfin, et tout d'un coup, ça a grandi énormément. Et donc, et tu voyais comment vraiment la beauté, parce que ils prenaient notre argent pour le café du matin, ils partaient avec l'argent, ils ramenaient la nourriture pour qu'on nous donne à manger à midi. La nourriture disparaissait comme ça, on mangeait vite à faire. Quelques moments, il n'y avait plus à manger.
Non, je pense qu'il y a des échanges, c'est impossible de se couper complètement, parce qu'ils ont besoin de l'accès à des choses. Alors j'imagine qu'il y a un échange et qu'il y a des gens qui font l'aller-retour, je pense. Ils ne sont pas complètement isolés. Bon, ils n'ont pas isolé du monde, alors ils ne sont pas complètement isolés. Mm-hmm. Mais sauf qu'apparemment, les gouvernements centrales n'interviennent pas trop. Ils les laissent.
Non, le gouvernement a des postes militaires. Il y a des systèmes de surveillance. Et aussi, le gouvernement a donné beaucoup d'argent à l'armée locale et à le gouvernement local pour sauver la pauvreté. Donc, beaucoup d'argent pour donner de la nourriture. Donc, c'est toujours tendu. Mais ce que c'est génial des zapatistes, et là, ta question est bonne, je pense, c'est que c'est pour ça qu'ils portent le passage montagne. Parce qu'après, tu es à Saint-Christophe et tu ne sais pas qui est zapatiste et qui n'est pas. Et tous s'habillent avec leurs habits traditionnels et avec leurs habits traditionnels aussi peuvent traverser ces frontières sans être... Mais là, je dis quelque chose de faux. Je pense que les gens vraiment qui sont dans les communautés zapatistes ne peuvent pas sortir. Ça, c'est l'histoire. Ils ne peuvent pas sortir. Il y a quelques personnes peut-être qui ont le droit de sortir, mais c'est très, très rare.
Du coup, quand vous êtes allé là-bas pour arriver, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a conduit vers l'endroit ou...
Oui,
parce que...
C'était un taxi.
Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver directement. Il n'y a pas tout le monde qui connaît comment arriver à cet endroit-là.
Parce que
c'est isolé, s'ils sont un peu en dehors.
C'était comme... On a payé un taxi. Hein. Et il y avait des gens qui avaient loué des camions, il y avait des gens qui avaient loué des chauffeurs depuis la ville de Mexique. Oui, il y avait un chemin qui arrivait jusqu'à là. Vous avez vu les signaux qui disent c'est un territoire. Et c'est vrai, j'ai pas pris une photo de ça. Ils m'ont demandé pas de prendre une photo. Il y avait comme une petite douane, si vous voulez. Mais on a traversé la douane comme ça. Ils nous ont pas arrêté. C'était un petit maison et à l'intérieur, tu avais avec quelques combats. Il y avait un petit fusil là. Ils nous ont dit mais ils ont pas arrêté. Ils savaient que c'était une rencontre, que le monde allait arriver. Mais eux ont des petits lieux dans les entrées de ces chemins, je pense, pour marquer. Et comment, je pense que les stratégies de nous inviter de temps en temps à nous, les non-sapatistes, c'est aussi parce que c'est notre regard, c'est notre conscience qui les a sauvés de l'extermination. C'est ce moment intermondialiste qu'on sait qu'on est là. Moi, je fais un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est pour dire elles existent.
Pour les faire connaître, pour qu'elles restent.
Et la seule force de eux, c'est le grand nombre. C'est ça leur force. Ce n'est pas 10 personnes, c'est des milliers organisés.
Bon, ils ont toujours bien, les réseaux sociaux, c'est-à-dire les, ouais. depuis le début. Alors j'imagine mm-hmm. qu'ils ont des manières de se connecter. Ils ne sont pas complètement isolés. Mm-hmm. Tu vois, tu les as connus, ils sont des pour le web, pour eux, on n'a pas de secret, ils ont réussi.
Oui. Ils utilisent mm-hmm. deux, trois sites web internet pour faire leur communiqué, leurs appels, mm-hmm. toutes leurs déclarations, leurs lois sont là. Mm-hmm.
Mais l'État mexicain, l'armée, le laisse tranquille pour ces moments. Comment ça se passe? Quelle est la relation pratique?
Pour le moment, il les laisse tranquille. Il y a comme une espèce de, je dirais, frontière invisible. En 97, j'ai eu beaucoup peur. Parce que là, il y a eu une matanza, la matanza de Acteal. Ils ont tué 45 personnes. Mais c'était dans une communauté qui n'était pas dans le territoire zapatiste, c'était un petit peu dehors. Et ils ont rentré dans une église et ils ont tué tout le monde, femmes, hommes, enfants, etc. Et c'était une époque où précisément il y avait Cedillo, c'était le dernier président de l'époque super néolibéral. Il a fait des mensonges, une fois vu une vidéo sur internet, mais je n'en peux plus le nom, il a fait des énormément de mensonges en disant que c'était eux, et voilà. Mais le drame, c'est ça le problème du gouvernement mexicain. La seule chose qu'il peut faire, c'est de les tuer tous. Mais quand ils l'ont fait, le scandale politique international dans les médias était tellement grand qu'ils n'ont plus jamais pu le faire. Et je me rappelle à l'époque, ils ont marché, ils ont fait une marche, parce qu'aussi ils ont une stratégie incroyable. À l'époque, ils ont fait une marche. Ils ont tous venu à la ville de Mexique, camions, personnes, cheval, je ne sais pas. C'était une marche qui a duré 3 jours, tout le monde à pied, pour la moitié. Ils n'ont pas été attaqués par l'armée. Ils ont occupé une socalo de la Ciudad de México, toute la place principale de Mexique, prise par les ejércitos zapatistas. Ils ont construit aussi un truc. Et là, la société civile mexicaine, c'est aussi ça. La société civile mexicaine, on vous soutient, on vous soutient, on vous soutient. Et c'était aussi un espèce de cordon humain entre la société civile mexicaine et internationale qui a permis qu'ils puissent venir se placer ensemble de la ville, retourner, personne ne les a touchés. Et ça, c'est très intéressant aussi dans le contexte politique mexicain. Dans les derniers mois, je pense qu'il y a eu 100 femmes politiques mexicaines qui ont été tuées. Celles qui sont dans le système politique mexicain, c'est hyper dangereux. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant ce qui se passe avec eux. Parce que j'ai l'impression, je n'avais pas l'impression, on était 10 000 femmes là-bas, presque tous mexicaines, parce qu'elles sont en vrai danger. En vrai danger. S'ils sont dans la politique traditionnelle, elles se mettent en danger de vie. Et donc s'ils viennent voir, écouter les zapatistes, comment ils ont fait pour ne pas se mettre... Ils ont un système de vigilance, les zapatistes. Eux ont un système, c'est une armée. Ils sont nuit et jour en train de voir ce qui se passe dans la frontière. Mais ils n'ont pas des armes. Ils ont un, deux armes. C'est simplement de corps humain. Et donc, oui, on verra. J'ai eu la visite d'un ami mexicain il y a quelques jours. Et lui et les gens comme nous, entre guillemets, de gauche, Antelo, tout le monde dit López Obrador va gagner. López Obrador, la gauche mexicaine traditionnelle. Moi, j'espère bien. Et j'espère que ça aussi va aider les zapatistes, parce que le plus extrême droite, ça devient le gouvernement. Il peut avoir un fou qui décide d'utiliser la force et la violence.
Mais c'est vrai que la gauche en Amérique latine était toujours. Elle n'a jamais compris les mouvements indigènes. Ça n'a jamais existé, même. Alors peut-être que ça commence à changer maintenant. Mais peu à peu, ils ont leur propre communauté, mais il y a une incompréhension absolue entre la gauche et.
Moi j'ai une question. À un moment donné, tu as dit j'ai aussi des critiques. Tu parlais de donner ou pas ta gravure. Tu discutais de la différence. différence sur notre relation?
Non, j'ai donné la parole ici. Oui, mais non, la partie de la gravure, je n'ai pas bien trouvé. Non, j'ai absolument donné ma gravure. Et elle a dit, je vais la prendre dans une communauté pour la montrer à la gravure. Non, ma critique, la critique, c'est que c'est vrai, eux nous voient venir de l'extérieur avec de l'argent, avec un iPad, avec tous ces moyens, et se demandent, quelques-unes qui ne sont pas dans le noyau dur de la sapatisme, ils disent peut-être je pourrais en fait sortir des sapatismes et vivre avec de l'argent et voyager en France. Mais c'est un peu ce choc culturel, tu vois, qu'en se mettant là en face de l'autre, ça surgit cette histoire, pourquoi elle peut voyager, moi je ne peux pas. Et la critique, oui, ils doivent respecter, il y a une discipline hyper forte à l'intérieur. Ils ne peuvent pas participer à l'argent, peut-être, ils ne pourront pas voyager et sortir de la communauté.
Et ça, c'est quelque chose pour toi qui diminue l'intérêt de l'expérience ou pas d'accord enfin,
non.
De l'idéal qu'ils proposent.
Non, ça ne diminue pas.
Qu'elle
pas. Non, ça me diminue pas dans le sens, moi je l'ai expliqué, que moi j'ai expliqué que pour moi avoir de l'argent c'est aussi un problème parce que je dois toujours avoir de l'argent et sans argent je suis nulle part, quelque part. Elles n'ont pas de l'argent, elles n'ont jamais touché de l'argent, mais ils ont un toit, une communauté, ils ont la nourriture et ils ont des soins. Donc c'est tout simplement que, et c'est là qu'on parle aussi de, c'est des univers.
Donc la discipline, elle n'est pas coercitive. Tout le monde est libre de choisir.
Bon,
je demande à Marie-Claire, ouais, je ne sais pas comment elle le sent.
Je pense que. Non, je pense qu'au début, comme je dis, au début, c'était un choix. Je me marie à 14 ans, j'ai 6 enfants à 20 ans, avec un mec que je ne connais même pas pour manger, ou je meurs de diarrhée, ou je me mets à l'armée sabbatiste. C'était un peu comme ça au début. Et c'était des familles qui déjà avaient été très déplacées de leur territoire. Et donc, aujourd'hui, eux ont déjà construit quelque chose qui marche. Je dirais, presque tous sont bien. Et aussi, c'est pour ça qu'ils font ces rencontres avec l'extérieur. Ils n'ont pas peur que des filles de 20 ans nous rencontrent à nous, discutent avec nous, nous écoutent à nous. Toutes les femmes étaient encouragées à savoir que ce que je fais en Genève, par exemple, c'était absolument aucune censure. Ou qu'est-ce que les autres font en Argentine, en Sud-Amérique, ou je ne sais pas quoi. Il fallait que se fassent des rencontres. Mais, en même temps, elles doivent, c'est comme moi, je ne peux pas aller habiter là-bas. Si j'arrive demain là-bas chez eux, ils vont me dire, va faire chez toi. Ici, c'est notre territoire. Parce qu'eux, ils ont construit une autre façon de vivre. Peut-être. Il y en a, mais ils ont, pour vivre là-bas, tu dois travailler collectivement et souvenir dans le travail collectif. Et il y a un blocus quelque part aussi, mais c'est un blocus imposé parce qu'il n'y a encore pas. Il y a un blocus, eux doivent se charger de l'invasion du gouvernement mexicain. Mais en même temps, il y a un blocus qui est créé par le système notre, le capitalisme, qui empêche que nous, ici, on fasse comme on veut. Mais je pense que l'idée, c'est de percer, de trouver ici à Genève. Il y a des lieux où les gens peuvent aller travailler de façon communautaire, avoir un logement ici à Genève, et de travail et se soigner que avec leur travail, comme ça, ou ils vont avoir besoin de l'argent. C'est une question hyper difficile, moi j'ai pas la réponse.
Mais du coup, est-ce que ça ne représente pas un peu un risque de laisser d'ouvrir leurs portes au capitalisme alors que c'est des communauté anticapitaliste. Par exemple, toi, tu vendais des œuvres d'art.
Oui.
Sûrement, il y a d'autres gens qui vendent leur œuvre d'art là. Et
oui, oui.
Est-ce que ça fait un peu un mélange qui est dangereux pour la préservation?
Moi, j'ai pas senti ça. J'ai senti que, par exemple, les filles qui sont venues avec leur gravure de Colombie, ils n'avaient pas une subvention pour aller vendre des gravures au Mexique. Ils avaient fait leur économie pour aller là-bas, amener leur travail, le partager avec les autres. Et c'était juste que les gens les payent. Et aussi, c'était comme... Mais je pense que là aussi, il y a cette logique indigène que nous, les Occidentaux, on a oublié. Mais dans l'Amérique précolombienne, les marchés libres, mais comme ça, libres, où tu amènes tes tomates, tu amènes ta gravure, tu t'assois comme ça dans le soleil, tu échanges, ça vient de toujours. C'est pas un danger. C'est pas un danger, je pense, dans le sens qu'il y a aussi ces règles que j'ai parlé avant, de comment gouverner, de comment participer. Ils ont, peut-être que je n'ai pas bien expliqué au début, mais leur loi, par exemple, les lois des femmes, il y a 16 lois pour une femme qui doit être respectée. Ça, c'est un des trucs les plus intéressants, en fait. La première loi, c'est la femme a... Attendez, je vais chercher. Ça, c'est comment ils ont fait les lois. Chaque communauté a décidé qu'est-ce que c'est le plus important pour une femme dans une communauté d'environ 200 personnes, 250 personnes. Par exemple, chaque travail pour décider quelles sont les lois, comme les lois de Human Rights Laws. Attends, je vais trouver où elles sont. Ça a pris beaucoup d'années pour les écrire. Les femmes, sans importer leur race, leur croyance, leur couleur, leur filiation politique, ont le droit à participer dans la lutte révolutionnaire dans le degré et la place que leur volonté et capacité déterminent, par exemple. Avant, les femmes devaient rester chez elles à faire manger toute la journée. Les femmes ont le droit à travailler et recevoir un salaire juste. Comienza su salario. En el caso de este punto todavía no lo hemos logrado en esta zona, pero que todos los cinco caracoles todavía no se está cumpliendo esto porque no hemos podido lograr todavía aquel salario dentro de la organización. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les femmes ont le droit à décider le nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir et ils veulent garder. Les femmes ont le droit à participer dans les affaires de la communauté, avoir en charge une position publique si elles sont élues démocratiquement. Les femmes et ses enfants ont le droit à l'attention primaire de santé et alimentation. Les femmes ont le droit à l'éducation. Les femmes ont le droit à choisir leur couple et à ne pas être obligées à la force de se marier. Aucune femme peut être battue, maltraitée physiquement, ni pour la famille, ni par les étrangers. Les délits d'essai de violation, ils seront punis sévèrement. Les femmes pourront occuper des positions de direction dans l'organisation et avoir des grades militaires dans les forces armées. Les femmes auront tous les droits et obligations qui sont signalés. Bon, c'était un draft. Mais par exemple, après, il y a... Les femmes ont droit à se défendre verbalement quand elles sont attaquées. La capacité et le travail de la femme auront la même valeur que le travail des hommes. Mais bon, je ne sais pas, j'ai pas tout... Ça semble logique ici. En Europe, ouf, oui, enfin, on connaît. Mais là-bas, c'est révolutionnaire. Tu n'es pas dans une communauté zapatiste. Être violée ou être mariée à la force ou avoir ton enfant ou ne pas avoir le droit à te reposer, même par les multinationales, par exemple. Les multinationales obligent les femmes à ne pas travailler. Ils n'ont pas le droit à la santé digne. Ils n'ont pas un salaire digne. Donc, ici, tout ça, c'est fait pour que tout soit d'abord marche. Mais il y a cette discipline et ce sacrifice. Parce que si la femme voulait venir en France, il n'y aura pas de nourriture pour les enfants, il n'y aura pas de l'argent pour construire une maison. Donc, eux sont dans ce moment de construire d'abord que les enfants ne meurent pas de faim, qu'ils ont une éducation, qu'ils sont soignés, que les femmes peuvent se reposer, que les femmes peuvent avoir les enfants. C'est ça, ça commence par le basique. Toutes nos histoires et nos problèmes qu'on a ici, de je n'ai pas mon iPad ou mon copain, je ne sais pas quoi, ou on va partir en vacances ou pas. Non. Là-bas, on sort des situations de dénutrition grave pendant 100 ans. Je peux vous envoyer ça, c'est ce qu'ils ont envie. Mettez votre image. C'est hyper intéressant. Parce que ça montre aussi beaucoup des étapes. Comment on arrive à ces accords, le consensus chez les zapatistes. C'est un truc ici, les Occidentaux, on n'arrive jamais. Non, non, j'ai pas le temps, je ne sais pas quoi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, là-bas, pour prendre des décisions, les gens se donnent le temps et la patience des temps des indigènes. Ils ont attendu 500 ans de colonisation, d'être rien. Aujourd'hui, pour eux, passer deux journées à discuter comment on va partager le parc de la Jonction, c'est rien, c'est absolument rien. C'est, au contraire, c'est un plaisir. Et aussi, une autre chose que je n'ai pas racontée, mais pour eux, la fête, c'est très important. Et à la fin, on n'avait pas l'image, mais peut-être on pourrait déjà mettre les vidéos avec la fête. Non, je pense que c'est dans une autre image. À la fin, il y a eu la fête. On a travaillé pendant tout ce temps-là comme des fous. Mais qu'est-ce que c'était la fin de l'histoire? C'était une fête où les zapatistes ont dansé toute la nuit avec leur musique. Il y a tous les hommes qu'ils ont rencontrés dans la communauté. Eux jouaient, eux faisaient la musique et c'était la fête, la fête, la fête. Et il y avait un moment, on était tous dans une structure en ciment. Plein de gens, tous ont dansé un à côté des autres. Vraiment. Et je pense qu'après tout ça aussi, tout le monde avait vraiment envie de danser. Et à un moment, ils ont dit, on doit arrêter, c'est dangereux. Un sympathiste a pris le micro. Il faut arrêter, c'est pas, it's not safe. La structure peut être... Ah non, il y avait quelqu'un, pas d'alcool, 3h du matin, tout le monde dansait. It's not safe. On va aller danser dans la esplanade. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait de je ne sais pas où, qui s'est assis comme ça, mais on était des centaines de personnes qui dansaient. Il y avait une personne qui s'est mise comme ça, au bord de quelque chose qui avait 3 mètres en bas. Ils ont vu une personne faire ça, ils ont arrêté la fête, ils ont pris 1h30 pour bouger l'équipe de son, la batterie, les gens, les danseurs, 1h30, tout le monde a accepté. Ça aussi, c'était incroyable, consensus, on obéit. Tout le monde a obéi. 1h30 plus tard, ils ont rebranché les appareils et tout. La fête a commencé et ça durait jusqu'à 6h du matin. Et la fête, c'était très important aussi. Sans fête, et on ne peut pas les sympathiser. Je suis sûre, il y a quelque chose là aussi. Il y a la discipline, mais aussi, il y a le moment de dire merci, je suis vivant. Je suis vivant, j'appartiens à la vie.
Il n'y a pas d'alcool du tout pour ce fait.
Non. Non, ils n'ont pas d'alcool depuis 1996, je pense.
Et qu'en est-il des psychédéliques qu'on trouve dans ton monde?
Pardon?
Ils utilisent des psychédéliques quand même ou pas?
Non, non, ils ne peuvent pas. Non. Ah, ça c'est dans les lois des femmes. Ah, j'ai trouvé incroyable. Dans les lois des femmes. Moi, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment une découverte. Les femmes, ils n'ont aucun besoin, n'ont aucune obligation de recevoir, parler ou discuter avec un homme qui prend de l'alcool ou se drogue. En fait, ils ont presque le devoir de ne pas les accueillir. C'est interdit. Mais ça, je parle au début, c'est parce qu'il y avait tellement de violence, et ça se passe aujourd'hui au Mexique, sans femme morte dans le mois qui a commencé. Le narco, l'alcool, enfin, c'est des armes d'extermination massive en Mexique. L'alcool est dedans. J'ai sorti de la communauté zapatiste, j'étais à Cancun, à 2 heures de Cancun, dans une plage touristique. Cancun, il y avait plein d'Européens qui faisaient la fête hippie. Et tout le monde qui vient de New York parce que ça coûte 150 balles et tu achètes la marijuana pour je ne sais pas quoi. Mais ces semaines-là, il y avait 6 personnes mortes par un narco dans ce village. Donc, c'est automatique. Tu achètes la drogue, tu vas trouver le son qui coule à côté. Ce n'est pas une histoire.
Moi, je fais quand même la distinction entre drogue et psychédélique. Le psychédélique, c'est une outil d'exploration de soi, c'est quelque chose que les Amérindiens ont beaucoup utilisé, notamment les Amérindiens du Nord, pour justement, notamment arrêter l'alcool. Justement. Il paraît que ça aide à arrêter justement des stupéfiants. Justement, les stupéfiants, c'est des outils, enfin, c'est des substances qui toxiquent le corps. Tandis que, paraît-il, enfin, c'est des recherches assez actuelles, mais. Et c'est pour ça que je me demandais s'ils avaient connaissance de cette.
Non, ce sont des lois très. Par exemple, je viens de trouver une autre.
Mais bon, c'est un autre sujet peut-être. Hein.
Il s'est interdit par la loi révolutionnaire qu'un homme a plusieurs femmes. Parce que de cette façon, la femme, que c'est sa femme, est pas bien. Ça, c'est une violation du droit. Tu peux te séparer ou tu peux être avec quelqu'un, mais tu peux pas être un homme qui a beaucoup de femmes. Si tu es un sapatiste, tu ne peux pas. Si tu es un sapatiste, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas prendre de drogue. C'est interdit. Depuis 1996. Mais c'est parce que surtout, au début, ils se sont fait arrêter par l'armée mexicaine. Et ça mettait en danger toute la communauté. Et aussi parce qu'au Mexique, une femme, au Mexique, les hommes sont très violents avec l'alcool. Donc les femmes étaient blessées gravement par les hommes. Enfin, c'est beaucoup des choses. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Laisse-moi on peut aller voir quelque chose et on continue à discuter.
J'avais la question sur justement les prises de décision. Tu as répondu, tu viens de parler justement de prendre le temps et d'aller au consensus.
C'était oui.
L'objet de la question.
Moi j'ai une question.
Oui.
Ouais, une question. Par rapport à la définition du qui est la Bastille. N'est pas une ou pas vous. C'est très clair. Est-ce qu'on peut, être sympathisant ou nous apathise de l'étranger ou, comment est-ce qu'on.
Je pense qu'on peut être sympathisant de l'étranger. Ils aiment beaucoup qu'on soit sympathisant, qu'on s'intéresse, qu'on les connaît.
Mais ça ne fait pas de toi un sympathisant. Je ne peux pas dire.
Pardon?
On ne peut pas se référer à toi, si tu n'es pas sur place, comme un zapatiste ou un zapatiste, si tu n'es pas sur place, mais que tu vis avec eux. Ou bien tu peux.
Non,
parce que
tu
par
peux
exemple,
pas.
Communiste, ou socialiste, ou révolutionnaire, c'est des concepts qui sont assez internationaux, donc, même s'ils ne sont pas forcément.
Ouais. Mais je pense que tu devrais être.
Encore plus populaire.
Je pense que ce n'est pas une idéologie, c'est le zapatisme, ce n'est pas une idéologie.
Donc, pas devenir une idéologie ou c'est pas un truc de devenir.
Si elle est mise en pratique, effectivement, c'est, ça dépasse l'idéologie, mais du coup, j'ai une question qui me revient à mon nom. Quand il y a des dérapages, ou quand il y a des transgressions,
oui.
Parce que c'est un peu, on en est en crise, où on
oui.
peut juger d'une affaire,
oui.
comment est-ce que c'est géré là? Est-ce qu'il y a un tribunal?
Oui, il y a le tribunal.
D'accord. Et il y a des sanctions, il y a une prison, il y a
oui.
un exil. C'est quoi les modalités?
Oui. C'est une bonne question. Ils ont, oui, ils ont des tribunaux et je pense qu'il y a des sanctions. Mais des prisons, je ne pense pas. Je pense pas. Peut-être il y a l'exil, oui. Peut-être il y a l'expulsion.
Ça peut être un exil temporaire, ça peut être une manière d'avoir un exil, ne plus adresser la parole à des gens. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de degrés.
Oui.
Les modalités de sanctions, en général, elles révèlent beaucoup de comment fonctionne un groupe. Parce que là, il y a une astuce incroyable dans les prises de décision. Comment est-ce que collectivement on arrive à prendre des décisions comme on va se taire pendant 5 ans
mm-hmm.
C'est incroyable d'arriver à une décision comme ça quand on est déjà 20. Alors là.
Ouais.
Et du coup, comment est-ce que voilà, le consensus, du coup derrière, s'il y a des gens qui veulent transgresser ce truc-là, comment on va gérer ça
mm-hmm.
Est-ce que quelqu'un qui aurait pris la parole au nom de. Est-ce qu'il serait exilé comme une traître
mm-hmm.
enfin,
je crois qu'il y a beaucoup de documentation à l'internet des mouvements sabbatistes, c'est vrai.
Mm-hmm.
Et tout ça a été depuis très longtemps. Alors je pense qu'on peut retrouver, non, de l'information sur la manière de fonctionner cette communauté. te pose la question à toi, mais il y a.
Dans les déclarations, là, il y a beaucoup de lois. Il y a les lois des femmes, il y a les lois de la déclaration. Là, c'est vraiment un énorme. Si vous voulez, il y a un grand corpus, presque. Oui, législatif. Mais il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit avant, c'était très important. Quand ils ont fait les écoles zapatistes, où les gens de l'extérieur pouvaient venir étudier, ils parlaient beaucoup de la nuit et de le noir. Et ils disent beaucoup. Ils disent beaucoup dans les mythes mayas et de beaucoup de monde. Il y a des choses à nous qu'on doit garder, et des mystères qui sont là. Et on ne peut pas tout dévêler. On ne peut pas. Pour ça, ils se sont protégés aussi. On ne peut pas tout dévêler, on devient trop vulnérable. Et il y a des choses qui prennent le temps. Il y a des choses qui prennent le temps aussi. Nous, les Occidentaux, on veut tout de suite aller prendre, copier-coller, etc. Eux, ils vous ont dit, arrêtez-vous. C'est beaucoup plus complexe. On fait partie de la nuit et on va retourner quand il y aura la lumière. Mais on ne va pas tout comprendre d'une seule fois. Il faut traverser la nuit. Ils utilisent beaucoup cette métaphore. Et je pense que cette nuit, c'est un peu ces discussions, ces rassemblements, ces prises de conscience. Pas tout est clair. Il faut mûrir. Mais je pense que aussi cette rencontre féministe et tout, c'était un peu dire on a déjà une maturité pour imaginer. Il y avait plein de groupes transgenres dans cette rencontre. Il y a des femmes qui parlaient de je suis transgenre, des femmes qui parlaient, comme on disait, les règles, le corps, le sida, enfin. Et tout ça, zéro censure, vraiment. Ils nous ont donné la confiance de ce qu'on a mené. Il fallait qu'eux l'entendent, parce qu'eux doivent l'entendre, pour après aller chez eux. Et discuter de ce qu'ils ont compris. Parce que chacun des femmes qui étaient dans notre atelier, après, devait rentrer dans leur communauté et ils allaient faire, comme aujourd'hui, des réunions pour discuter. Moi j'écoutais ça. Ah, en fait, peut-être les préservatifs, c'est pas si mauvais que ça. Ah, peut-être le sida, oui, c'est peut-être un problème. Ah oui, ah non, j'ai compris qu'en fait, ici non. Enfin, maintenant, elles sont là-bas en train de bosser avec ce qu'on a amené. Elles sont en train de bosser avec nous. De faire des rencontres à réunion comme nous, mais que c'est elle-même qui tous ramène, par exemple celle qui je donnais la gravure, elle a ramené sa gravure pour la présenter à sa communauté et expliquer que ce que je n'avais pas. Elle a pris mon dessin, elle a pris le dessin avec la carte du monde, dessiné par moi, et la gravure. Parce qu'elle avait le devoir de revenir chez elle et expliquer à la compagnie, à ce qui n'avait pas pu venir à la rencontre, parce qu'ils ont reçu pour garder les animaux. Pour garder les récoltes. Parce qu'ils ont aussi dit, on est ici 2000 pour vous aider, mais on ne peut pas tous partir parce qu'on a un devoir chez nous, il y a des enfants, il y a des. Donc après, ils avaient le devoir de faire le rapport dans leur cadre de ce que nous on a amené. Donc celle qu'on a vu, et tous les vidéos, ils ont filmé, là aussi, une expertise, une organisation incroyable. Ils ont filmé comme ça. Chaque conférence était filmée.
Bon, moi, je suis le premier livre, hein, puisque qu'on a noté Marcos, exceptionnel, déjà en 96-97. Hein. Une dernière petite question, est-ce que tu sais si les rapports se font entre, par exemple, les peuples mapuche en lutte, concernant l'extractivisme, les Marcos qui sont aussi extrêmement offensifs.
J'avais la photo ici,
entre eux, ils échangent des trucs, ils échangent des astuces.
Oui, le dernier jour, il y avait des macroches qui ont amené des semences spéciales.
Ah.
Il y avait des peuples de l'Amérique du Nord. Regarde, c'est là.
Ça, c'est un tabou macroche.
Oui. Il y avait des délégations de femmes de Brésil, des macroches, de la Canada, des. Ah,
j'ai
des macroches. Il y avait des femmes de tous les peuples autochtones des Caraïbes, des différentes communautés indigènes de l'Amérique du Nord, d'Alaska. Et tous, c'est ça aussi que je me dis, c'est comme l'ONU, quoi. Mais c'est comme l'ONU bien fait. Parce que tout le monde a réussi à venir. Il y avait des chanson des disparus de ici. Il y avait tout ça. Et à la fin, tous les principales délégués sont montés et sont offerts un cadeau aux sabbatistes. Les cadeaux étaient des semences, des dessins, des banderoles, des chansons. Et chaque femme qui a représenté ça a fait un discours aussi, dans le plateau. Et on était tous là en disant bravo, bravo. Donc, c'était là, non, je pense que nous, on avait tous la peau comme ça, ça nous fait ça aussi aujourd'hui, parce que tu sentais qu'il y avait de la Patagonie jusqu'à Alaska, on était tous là.